Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2h pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire, mené par un professionnel qui réussit à rester concentré de 5h à 7h sans jamais décrocher un seul instant, même durant la chronique des Varocs. Là vous dites chapeau l'artiste et vous avez raison, hier une fois de plus, j'ai tout bien écouté.
Elle a acheté les droits et adapté elle-même le livre, l'excellent livre d'Olivier Bourdeau En attendant Beau Jungles.
Mais c'est pas elle qui l'a écrit En attendant Beau Jungles, c'est un livre.
Bah je viens de le dire.
Ouais, ok, une fois j'étais en train de manger un cookie. Mais debout les copains, c'est aussi des gens consciencieux dotés d'une éthique forte comme Fabrice Dalméda. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin revient sur un personnage historique un peu particulier qui fête ses 60 ans, Astérix. Qu'est-ce qu'on dit Eva?
Jolie moustache.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, je sais pas. Mais c'est vrai.
Oui, il y a
c'est
eu ça. Un bug technique, les amis. C'est pas grave, on passe au journal.
Merci d'écouter Europe 1 en ce mercredi 6 février. Il est 6h, c'est mon réveil.
Expliquons tout à nos auditeurs. Je comprends ce qui s'est passé. Notre réalisateur Philippe Amadé, d'habitude si doué, a réalisé qu'il n'avait pas le son. Le son qui était très jolie moustache d'Eva. Et donc il a soufflé dans l'oreillette d'Eva. Dis vite, très jolie moustache, comme ça le gag sera réussi. Et effectivement, on peut le dire, le gag est réussi. Merci Philippe, merci Eva. Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mercredi 6 février. Bonjour Céline Galman.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
L'incendie meurtrier de la rue Erlanger à Paris, une résidente de l'immeuble suspectée d'être à l'origine du drame a été internée en psychiatrie. Bruxelles va se prononcer aujourd'hui sur le mariage entre Alstom et Siemens. Sauf immense surprise, la commission devrait poser son veto à l'opération. Et puis on le lâche rarement, c'est un peu le prolongement de notre cerveau. Et si on se passait de notre téléphone portable aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans mobile.
Europe 1.
S'épauler pour faire face au traumatisme, deux messes ont été célébrées hier en hommage aux 10 morts de l'incendie de la rue Erlanger à Paris, près de la porte d'Auteuil. Hier, une personne a été placée quelques heures en garde à vue avant d'être admise à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Cette femme de 40 ans, habitante de l'immeuble ravagé par les flammes, avait déjà séjourné plusieurs fois à Sainte-Anne, hôpital psy. Certains voisins ont laissé éclater leur colère, comme Inès, qui se trouve au 7e étage quand le feu a démarré et qui espère qu'elle sera jugée.
Elle va payer parce qu'il y a eu des morts, il y a un bébé qui est mort. Moi je trouve ça c'est pas normal, c'est une querelle de voisinage et on a tous payé le prix. Moi j'ai 20 ans par exemple, j'ai failli crever, enfin je comprends pas.
Quand vous vous énervez avec vos voisins, vous allez pas chercher des bouts de bois et mettre le feu, enfin c'est pas normal. Faut qu'elle paye, faut qu'il y ait un procès déjà, faut qu'on voit cette personne en face et qu'elle nous dise pourquoi elle a fait ça. Et je veux pas entendre la folie ou je sais pas quoi. Hein. Quand tu mets le feu, quand tu allumes le petit bout de bois, tu sais que ça va mettre le feu et que... on va tous mourir. Enfin, c'était prémédité. Moi, je ne veux pas me dire que c'était de la folie ou je sais pas quoi.
Un propos recueilli par Victor Dolande. La suspecte est désormais entre les mains de l'infirmerie de la préfecture qui aura donc une dizaine de jours pour établir si l'incendiaire présumé est pénalement responsable de ses actes. Dans l'actualité de ce mercredi, la Commission européenne va rendre sa décision sur le projet de fusion entre Alstom et Siemens. Tout indique que Bruxelles devrait mettre son veto à l'opération. L'Europe craint un affaiblissement de la concurrence. C'était une promesse de campagne. Emmanuel Macron va faire du 24 avril la journée nationale de commémoration du génocide arménien. Il s'est exprimé hier soir lors du dîner annuel qui rassemble les organisations arméniennes de France. Emmanuel Macron qui va rencontrer aujourd'hui Marine Le Pen mais aussi Jean-Luc Mélenchon dans le cadre du grand débat.
Le Premier ministre Édouard Philippe lui a reçu hier à Matignon une trentaine d'associations.
Oui, il doit écouter aujourd'hui les partenaires sociaux. Le grand débat, on est en plein dedans. 4000 réunions locales, 700 000 contributions sur la plateforme en ligne. Plateforme créée et gérée par une start-up parisienne. Son nom Cap Collectif. Aurélie Herbemont s'y est rendue pour Europe 1.
Ils sont 25 dans l'open space et tous mobilisés. Une des missions, vérifier que le site tient le choc face à la masse de contributions. Déjà 10 fois plus que pour la plus grosse consultation jamais organisée par Cap Collectif, son fondateur Cyril Lage.
C'est effectivement la plus grosse pour nous, c'est aussi la plus grosse en France et ça s'annonce pour être la plus grosse au niveau mondial, je pense. On a rarement des projets participatifs qui sont portés directement par un chef d'État en fait. Donc c'est ce qui explique ce niveau de participation, d'intérêt des gens.
Des gens qui sont libres d'écrire ce qu'ils veulent, pas de censure au programme. Toutes les propositions sont publiées en l'état. À peine une trentaine de contributions signalées, mais elles restent accessibles et sont étiquetées « incitation à la violence »,« propos racistes » ou « apologie de crimes de guerre ».
Vous voyez, par exemple, celle-là, c'est un peu particulier. Il n'y avait pas de contenu offensant, problématique à l'intérieur. Mais la personne a choisi pour illustrer son profil une photo d'Adolf Hitler.
Les propos les plus extrêmes ne seront pas forcément dans la grande synthèse finale. Synthèse qui ne sera pas réalisée par Cap Collectif, mais qui devrait être gérée par l'Institut de sondage Opinionway.
Aurélie Herbemont, 300 000 personnes selon la CGT, 137 000 selon le ministère de l'Intérieur, chiffre de la mobilisation hier contre l'action du gouvernement où les Gilets jaunes ont également participé. La CGT qui prévoit une nouvelle journée à la mi-mars. Donald Trump a tenu un discours devant le Congrès. Le président américain a évoqué cette nuit des discussions constructives avec les talibans en Afghanistan. Donald Trump qui souhaite retirer ses troupes au plus vite après 17 années de conflit.
Plus de deux semaines après la disparition de l'avion d'Emiliano Salah, les opérations sous-marines vont reprendre au fond de la Manche.
Oui, les sauveteurs vont effectivement tenter de récupérer le corps qui se trouve dans l'épave de l'appareil. On ne sait pas s'il s'agit de celui du footballeur argentin ou celui du pilote britannique. La carcasse de l'avion se trouve à 68 mètres de fond. Vous vous couchez avec, vous vous levez avec, il est partout, tout le temps, là, partout. C'est une drogue, vous ne pouvez plus vous en passer. Varroc, ça marche aussi, ouais. Eh bien, c'est justement l'occasion de faire sans aujourd'hui. C'est la journée mondiale du sans portable. C'est
sans
une initiative qui date de 2001 et Pierre Herbulot a essayé la déconnexion totale.
Dès les premières minutes sans portable, les premières difficultés, pas de réveil, pas de repas non plus, parce que chez moi, j'ai pas de poste de radio.
Bon là je vais chez un ami déjeuner, j'espère qu'il sera chez lui parce qu'il a aucun moyen de me prévenir s'il a un empêchement. Le problème c'est que d'habitude je regarde mon chemin sur mon téléphone et là je suis un petit peu perdu donc je vais aller demander au café. Excusez-moi de vous déranger, je cherche la rue des Jonquières, est-ce que vous savez où c'est?
C'est celle-là, côté d'épicerie là.
Merci, bonne journée. C'est bon.
Bon pour l'instant ça va, mais comme j'ai pas de montre, pour aller à la radio ça risque de se compliquer.
Excusez-moi, vous avez l'heure s'il vous plaît?
15h07.
Bon voilà, 15h07, je suis un petit peu en retard, je commence à 15h. Et impossible de prévenir la rédaction puisque j'ai pas de portable. Et en France, il n'y a plus de cabine téléphonique en état de marche.
Il est 23h.
Ça y est, je peux enfin rallumer mon téléphone. Bon, si on met de côté le fait d'être injoignable, rien d'insurmontable, ce qui est effrayant par contre, c'est ce réflexe presque addictif que j'ai eu une dizaine de fois dans la journée, celui de chercher mon portable dans ma poche.
Oui, pas mal, hein, Pierre Herbulot.
Ah, pas mal. Bravo, Herbulot. Ça fait longtemps que j'avais envie de dire ça. Bravo, Herbulot. Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Et Céline, cessez de minauder, cessez de tourner autour du pot, le pot étant bibi. Allez-y, Franco, ma petite, posez-moi cette question que vous brûlez d'envie de me poser depuis des semaines.
Il paraît que t'as un tatouage sur la fesse gauche. Il y a vraiment écrit ce que t'as dit qu'il y avait écrit.
Viens chercher le bonheur. Oui, c'est effectivement ça qui est écrit.
Europe 1.
5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique. C'est un célèbre petit Gaulois connu pour ses moustaches et sa valise qui fête aujourd'hui ses 60 ans. Oui, agrégé mais éclectique, Fabrice Delmeda nous parle aujourd'hui d'Astérix.
Europe 1, 6h06. Il est 6h08, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur le temps de ce mercredi.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine.
Céline Dacosta, le temps c'est vous sur Europe 1. Un ciel couvert sur l'ouest et le centre du pays aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, avec des bruines possibles et un ciel pluvieux près de la Manche. On aura également du vent, de faibles averses pour ce matin, mais elles seront plus régulières et soutenues cet après-midi entre la Bretagne et le Cotentin. Du brouillard aussi hein, sur tout l'ouest ce matin, prudent sur les routes. Et pour les autres, c'est un temps assez calme. On aura encore du soleil sur une frangette, sur les Pyrénées, sur le sud-est et la Corse. Quant aux températures, elles restent douces. Elles sont même encore en hausse cet après-midi avec une moyenne de 9 à 16 degrés du nord au sud. Il en fera 10 à Paris, jusqu'à 18 degrés cet après-midi à Perpignan.
Merci Céline. Eva, beaucoup de messages d'auditeurs.
Oui, énormément, parce que c'est les Bob Marley aurait 74 ans aujourd'hui. Mais vous, qu'est-ce qui vous rend cool? Et bien sûr Twitter avec le hashtag Europe 1.
Les jolies moustaches.
Les jolies moustaches. On a eu un message de 2020 qui nous dit des Santiago taille 47, je chose du 42, précise-t-il, acheté dans le Colorado. Le vendeur, la vendeuse m'avait dit never polish de Santiago, jamais cirer les Santiago, overcool comme consigne. Il n'y avait plus ma taille en poule affreuse, mais c'était trop cool quand même. Philippe, il nous dit c'est le sourire de ma fille hein, qui me rend cool et zen. Et puis JP César nous dit c'est quand ma charmante épouse me prend la main. Merci beaucoup pour tous vos messages. Vous continuez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ah, mesdames, notre coach sportif vient de faire son entrée dans le studio. La devise de Jérôme Lacroix, no pain, no gain. Pas de souffrance, pas de résultat. Vous êtes prêtes pour notre page sport?
C'est vrai que c'est bon, la pâte à tartine au spéculoos.
Et les crêpes au beurre salé.
Ah, mais non.
Ah, les crêpes au beurre salé,
oui.
C'est bon.
Oui, bon, bah tant pis, journal des sports quand même, Jérôme. À la une, le match de leur vie.
Le titre du Progrès ce matin, le journal met à la une les footballeurs rodaniens de Villefranche-sur-Saône. Ils jouent en 3e division. Et c'est Caladois, c'est le gentilé, les Caladois, ambitionnent ce soir à Lyon de faire tomber les stars du PSG en Coupe de France et la suite des huitièmes de finale. La ville attend la rencontre avec impatience. Le capitaine Maxime Jas, pur Caladois, en témoigne.
Quand je vais dans la rue, on parle de ce match-là. Même les gens qui sont pas trop football vont aller au stade. On voit qu'il va avoir 20 000 personnes pour venir nous voir. Donc tout ça, c'est énorme pour la ville de Villefranche, pour le Beaujolais. Mais c'est positif parce que voilà, on parle du club, on parle du Beaujolais. Et...
Alors, Paris doit jouer comme si c'était la Ligue des Champions, c'est ce qu'a dit hier l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, et ce sera aussi un peu la Ligue des Champions pour Villefranche-sur-Saône. Les supporters comme Jean-Paul ont d'ailleurs leur petite idée pour stopper Mbappé, Cavani et consorts.
Il faut les prendre aux chevilles d'entrée et les prendre un petit peu, comme on dit, la semelle. Et si on les laisse pas jouer, je pense qu'on a des chances.
Voilà, des propos recueillis par Jean-Luc Bougeon. Viril mais correct, hein, faut que ça reste.
J'espère bien.
Voilà,
oui.
Villefranche-sur-Saône PSG, coup d'envoi à 18h30. À 18h30 également, les Bretons de Vitré, 4e division, face à Lyon-Duchère, qui évolue une seule division au-dessus. Et puis à 21h05, Rennes-Lille.
Et hier, Jérôme, les Bastiais sont passés tout près de l'exploit.
Oui, c'était eux les plus petits engagés avant ce matin. Ils ont été éliminés, mais au tir au but seulement. 5-3 par les joueurs de Caen qui évoluent en Ligue 1. Les Corses, devant 10 000 personnes à Furiani, sont revenus deux fois au score. Également hier soir, qualification de Dijon. 3-0 chez les nordistes de Croix, 4e division. Des Nantais, 2-0 face à Toulouse et des Orléanais, 1-0 à Metz. En Ligue 1, victoire des Marseillais en match en retard après deux défaites d'affilée. 1-0 contre Bordeaux dans un stade Vélodrome sans spectateurs. 8 clos total, sanction disciplinaire. L'OM, 7e du classement ce matin, à 9 points du podium.
Le ski et la belle histoire de Papy Claret.
Johan Claret, affectueusement surnommé Papy par les autres bleus, bah oui, à 38 ans, le Haut-Savoyard réussit la meilleure saison de sa carrière, notamment marquée par une récente deuxième place au Super G de Kitzbühel en Coupe du Monde de ski. Il croit en ses chances pour aujourd'hui en Suède. C'est le Super G des mondiaux. Fabien Saguez, directeur technique national, le voit même meneur des bleus sur cette épreuve.
Sur la vitesse, le début de saison était quand même compliqué, avec des résultats un peu irréguliers. Je dirais que notre plus grande chance sur ces mondiaux, c'est quand même Johan Claret, qui réalise une saison hyper régulière, très solide, et c'est le seul qui a fait un podium en vitesse.
Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie. Super G, messieurs, début midi et demi lors de ces mondiaux en Suède. Hier chez les dames, victoire de l'américaine Schifrin, la française Worley, 16e.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Un nouveau venu dans le foot, il s'appelle Louis Ducruet, 26 ans. Et à pas de loup, il vient d'être nommé assistant de Vadim Vassiliev, le vice-président du club de Monaco. Louis Ducruet, pas n'importe qui en fait. 14e dans l'ordre de succession au trône de Monaco. C'est le fils de Stéphanie de Monaco.
Oh, j'aime quand vous jouez les Stéphane Bern comme ça. C'était le journal.
J'ai failli me lancer dans une imitation. Je
ah, mais bon, non, s'il vous plaît. Allez, non. Un petit Stéphane Bern.
Stéphane Bern, il ne vous en voudra pas.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Jérôme, avant de passer à la rubrique histoire de Fabrice Dalméda, une dernière nouvelle qui va nous faire super plaisir.
Ah, ma mère dit qu'elle fait la bise à tout le monde. Elle va venir bientôt d'ailleurs.
Ah ouais, super. Bon, ben allez, on passe à Dalméda.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Ce matin, c'est un fact-checking particulier que vous nous proposez, célébrer le 60e anniversaire de l'invention d'Astérix, un héros français. En quoi est-ce Historix ?
Oh, on était en 1959 en France. Charles de Gaulle venait d'être élu président de la République et Goscinny et Uderzo abordaient par l'humour les tabous de l'histoire contemporaine.
C'était quoi ces tabous ?
Astérix est la première bande dessinée qui tourne l'occupation en dérision. 15 ans après la fin de la guerre, alors que les acteurs étaient encore vivants, même la résistance paraît comique. Songez que la première vraie comédie filmée sur le sujet n'interviendra qu'en 1966 avec La Grande Vadrouille. Mais un point étonne. Goscinny et Uderzo montrent les adversaires romains avec une étonnante tendresse. Je vous rappelle que c'est même Jules César qui sauve la situation. On ne peut pas penser que Hitler était leur modèle. Il y a donc une autre logique cachée dont on ne parle jamais derrière les profils des Romains, une référence directe à l'actualité de 1959.
À quoi pensez-vous ?
En fait, en 1959, c'est la France qui a envoyé une armée d'occupation dans un autre pays et qui y mène une répression violente. C'est la guerre d'Algérie. Dans Astérix le Gaulois, les légionnaires sont vêtus de vert, comme nos soldats. Et les centurions complotent, comme les généraux. Un tabou encore. La guerre, la torture, est utilisée en Algérie, mais niée par le gouvernement. Or, la torture est là. Dans Astérix le Gaulois, on chatouille Panoramix avec une plume. Et Astérix, même, y échappe de peu. Le bourreau, d'ailleurs, arrivé tout joyeux, repart dépité. En somme, les auteurs dénonçaient la torture militaire française. Sous l'apparence de l'occupation, Goscinny et Uderzo évoquaient le conflit qui déchirait leur génération. Et celui qui réglerait la situation, ce serait César, vous aurez compris, de Gaulle. Rien d'étonnant alors à ce que le général ait prisé ses dessins.
Eh ben dis donc, moi qui lis Astérix tous les jours à mon fils, si j'avais compris tout ça, je lui demande toujours s'il a compris, en fait c'est moi qui n'avais rien compris. Merci beaucoup Fabrice Almeida, l'histoire à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. À 6h20, à l'occasion du lancement ce soir de la 10e saison de Top Chef sur M6, nous recevrons la gagnante de l'édition 2011 qui vient d'obtenir sa 2e étoile au Michelin. Stéphanie Lequelec sera avec nous. Une réaction les filles ?
J'ai faim.
Oui, t'as patience d'abord. On va s'ouvrir l'appétit avec un peu de musique. Tout oublié, Angèle et Roméo Elvis sur Europe 1.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Mais là j'ai trop joué. Mais ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Tout oublié, Angèle et Roméo Elvis sur Europe 1.
Europe 1, il est 6h18, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'infos, de bonne humeur et d'invités au cœur de l'actu. Ce soir, lancement sur M6 de la 10e saison de Top Chef. Longtemps ici, on a compté sur les talents culinaires de Céline Dacosta pour nous régaler, surtout quand elle nous a dit avoir investi dans un appareil à gaufres, mais très vite, il a fallu se rendre à l'évidence.
Tu nous en fais ?
Mais le truc, c'est que c'est pas des gaufres, elles sont pas épaisses. En fait, elles gonflent pas, en fait. J'en ferai, mais elles sont toutes plates, c'est ça que je veux dire.
Ah non, mais plates comment ? Comme des crêpes ?
Te moque pas.
Bref, ce matin, pour parler gastronomie, on recevra plutôt Stéphanie Lequelec, gagnante de Top Chef 2011 et qui, depuis vol de succès en succès, elle vient de décrocher sa 2e étoile au Guide Michelin. Elle sera avec nous dans un instant.
Il est 6h20, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
L'incendie meurtrier du 16e arrondissement de Paris. Une femme de 40 ans a été internée à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Elle est suspectée d'être à l'origine du sinistre qui a fait 10 morts et une trentaine de blessés. Près de 300 000 personnes selon la CGT, 137 000 selon le ministère de l'Intérieur, chiffre de la manifestation d'hier à l'appel de la CGT, mais aussi pour la première fois avec la participation de Gilets jaunes. Enfin du foot, les Marseillais ont sorti la tête de l'eau hier en battant Bordeaux 1-0 dans un stade Vélodrome vide. L'OM remonte à la 7e place du classement de Ligue 1.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce mercredi 6 février. L'actualité, c'est aussi le retour d'une émission de télé. Ce soir, M6 lance la 10e saison de Top Chef. Bonjour Stéphanie Lekelec.
Bonjour Mathieu, bonjour à
tous. On est très heureux de vous recevoir pour parler de Top Chef, émission que vous aviez remportée en 2011, mais surtout, surtout Stéphanie, pour fêter votre deuxième étoile au Guide Michelin. Le palmarès est tombé la semaine dernière. Alors déjà, pour un néophyte comme moi, est-ce que vous l'attendiez? Est-ce que vous le saviez tout simplement? Est-ce qu'on est prévenu avant, un peu comme quand on a un Oscar?
Non, alors ce qui change un peu depuis 2-3 ans maintenant, c'est qu'on n'est pas prévenu à l'avance. C'est qu'il y a une espèce de cérémonie.
Vous allez vous pointer la cérémonie,
je
vous ne savez pas.
Je l'ai su dans la salle, effectivement. Donc la tension monte, les jambes sont coupées, le souffle est court. Les mots m'ont manqué ce jour-là, d'ailleurs, je ne vous le cache pas.
Vous aviez préparé un petit discours?
Même pas. Parce que même si on y croit, on a envie d'y croire, tant qu'on n'a pas entendu son nom, vous savez, on subodore.
Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir une deuxième étoile? Pour nous, pour le grand public, on se dit, bon, déjà une première étoile, c'est déjà très bien. La deuxième étoile, ça fait franchir un cap
décisif. Ça change rien et ça change tout, en fait. Bien sûr, d'abord pour les équipes qui ont évidemment beaucoup donné. On a beaucoup de clients qui y croyaient beaucoup aussi. Hein. Ça fait 6 ans maintenant au Prince de Galles. On a des clients très fidèles qui nous supportent depuis le début, qui nous avaient prédit cette première étoile, qui depuis cette première étoile, ils disent « Ah, tu vas avoir 2 étoiles, tu vas avoir 2 étoiles. » Donc voilà, des clients qui nous suivent. Donc moi, je suis très fière pour les clients d'abord et pour l'équipe ensuite.
Alors cette année, une dizaine de femmes ont décroché 1 étoile, mais au-delà d'une étoile, 2 étoiles et 3 étoiles, il y a à part vous et Anne-Sophie Pic, il n'y a pas grand monde. Est-ce que les mentalités mettent du temps à changer dans le milieu de la gastronomie, qui était historiquement assez masculin?
Alors oui, historiquement masculin, même si je dois me faire l'avocat du diable, oui, et remonter à la mère Brasier, 3 étoiles Michelin, qui a formé Paul Bocuse. Enfin, historiquement, c'était les mères qui cuisinaient et qui avaient les étoiles dans les années 30. Hein.
Oui, mais ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle c'est les hommes qui ont pris le dessus.
Non, je pense pas que les mentalités ont changé, je peux vous le confirmer. Oui. Après ça, à la question qu'on me pose, mais pourquoi 10 femmes cette année? Moi, quand j'ai démarré en 2001 dans un palace de l'avenue Georges V, un autre que celui dans lequel j'officie aujourd'hui, nous étions 2 jeunes femmes sur 80 cuisiniers. Aujourd'hui, 20-25% de jeunes femmes constituent, d'accord, nos brigades. Donc, il
c'est
a fallu 10 ans.
Il y avait moins de femmes,
oui,
qui,
voilà,
tentaient l'aventure.
Il a fallu 10 ou 15 ans pour que les femmes tentent l'aventure. Et après, il faut 4-5 ans pour arriver à des postes à responsabilité ou bien à se lancer dans son propre restaurant.
Alors justement, si on démonte les clichés, quand on n'y connaît rien, on a l'impression que la cuisine, c'est un univers quasi militaire avec une rigueur. Et justement, c'est pas gênant d'être une femme dans ce milieu-là? Comment on fait pour s'imposer?
C'est des histoires de caractère. Je pense vraiment que c'est des histoires de caractère. Mais il faut cette rigueur parce qu'il faut pas oublier qu'il y a toujours un client au bout. Un client qui arrive avec une attente. Quand on n'a pas d'étoile, quand on en a une, quand on en a deux, quand on en a trois, c'est une promesse, vous savez, qu'on fait au client. Donc il faut être à la hauteur de cette promesse. Donc ça demande discipline et rigueur.
Et Varro, qui est la rédactrice en chef de cette émission et qui me tient, mais alors comme mais, ça, une mais poigne
oui,
de fer.
Vous avez vu ça?
Mais
vous êtes dirigé vous-même par une femme,
mais évidemment,
mais c'est ce qui fait que vous êtes
pour,
si bon.
Ça doit être ça.
Mais j'avais 2 questions terre à terre. Quand, comme vous, on cherche à promouvoir une cuisine de partage, est-ce qu'il n'y a pas une frustration à ne proposer que des menus très chers et donc réservés quand même à une clientèle aisée, voire fortunée? Et puis, de façon plus terre à terre, une deuxième question qui n'est pas vraiment en rapport, mais est-ce que vous souffrez d'un manque de personnel comme dans les autres secteurs de la restauration? Alors, pour la première question, nos prix n'ont pas bougé depuis 2 étoiles Michelin. On est dans un cadre, on est dans un palace, etc. Néanmoins, dans ce cadre-là, c'est une somme, mais c'est pas inabordable non plus. On n'est pas à du 500 euros par tête comme dans certaines maisons. On essaye d'avoir un premier menu et j'essaye d'avoir sur toujours une entrée, un plat, un dessert. On a la première entrée autour de 30 euros, autour du légume, avec un vrai travail autour du végétal, etc. Donc, on essaye quand même. Voilà, c'est clairement une table qu'on va peut-être pas faire tous les jours, mais qui est quand même à la portée de certains, une fois par an, ne serait-ce que pour se faire plaisir sur les grandes...
Par exemple, Saint-Valentin qui arrive.
Par exemple. Après, le personnel, on fait des métiers qui, effectivement, aujourd'hui, souffrent. Vous parliez de Top Chef. Top Chef, c'est formidable. C'est un regain d'intérêt dans les écoles hôtelières. Après ça, il y a une déperdition de main-d'œuvre entre les écoles hôtelières qui sont pleines aujourd'hui et nos cuisines où on a du mal, effectivement, à recruter. Maintenant, la deuxième étoile est aussi un facteur où on a beaucoup de CV aujourd'hui, plus que la semaine dernière, par exemple.
Juste une question sur Top Chef. Ça ne vous a pas appris à cuisiner, on est bien clair.
Non, mais ça m'a apporté d'autres choses.
Qu'est-ce que ça vous a apporté?
Ça m'a appris à prendre confiance en moi, à aborder les choses de manière très différente. Et surtout, c'est arrivé une période de ma carrière de cuisinière, où j'étais sous-chef dans 2 étoiles Michelin et j'allais prendre ma première place de chef. Donc ça m'a poussé, notamment la rencontre avec Jean-François Piège, qui m'a un petit peu piqué à vif et qui m'a forcé à assumer ma cuisine, à me raconter, me livrer dans une assiette.
Donc ma question suivante était complètement conne, puisque je voulais vous demander si, quelque part, vu que vous étiez déjà sous-chef dans 2 étoiles à l'époque, est-ce que Top Chef, vous n'avez pas fait perdre du temps dans la quête aux étoiles, sachant que le Michelin n'aime pas trop les trucs trop showbiz?
Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, et ça c'est une de mes grandes fiertés aujourd'hui, s'il en est une, c'est de dire aujourd'hui, vous savez, c'est très français de ranger des gens dans des catégories. On fait ou de la télé, ou de la haute gastronomie, ou on est mère au foyer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi j'ai 3 enfants, je suis mariée depuis 15 ans, j'ai 2 étoiles au Michelin, j'ai fait de la télé, je le renie pas. Donc aujourd'hui, je pense être l'exemple qu'on arrive quand même à avoir plusieurs terrains de jeu, on n'est pas obligé d'être centré sur
une chose.
On peut être multicarte et on espère que...
La troisième étoile.
Ah bah oui, oui, calmez-vous, la troisième étoile va venir. Mais...
Voilà, moi je félicite d'ailleurs les deux nouveaux trois étoiles, Mauro Colagreco et Laurent Petit, qui sont des cuisiniers extraordinaires et je crois que c'est une autre maturité. Donc j'ai 37 ans aujourd'hui, si ça arrive bientôt. Après mes 40 ans, ce sera formidable.
Merci encore Stéphanie Lecalec d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes chef de la Seine Restaurant 2 étoiles à l'hôtel Le Prince de Galles à Paris. Merci.
Merci à vous.
Europe 1.
Il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et à peine le thermomètre monte-t-il que déjà la pluie revient. Coquinette.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avant le journal de 6h30 avec vous, Céline Dacosta. Un temps agité près de la Manche.
Oui,
aujourd'hui.
Avec dès ce matin, vous en parliez, des averses. Elles sont faibles avec du vent de la pointe bretonne au Pas-de-Calais, mais elles vont se renforcer avec une nouvelle perturbation qui va arriver en fin de matinée par le Finistère. Elle va apporter des pluies régulières et parfois soutenues entre la Bretagne et le Cotentin cet après-midi. Pour les autres, le ciel va rester couvert entre le Poitou-Charentes, la Gironde, la région centre, l'Île-de-France et puis en montant vers les Ardennes avec quelques brunes possibles partout ailleurs sur l'extrême sud, sur tout le flanc est. Le ciel va rester plutôt clément avec des éclaircies, grand soleil même près de la Méditerranée. Et puis attention ce matin aux brouillards qui sont encore nombreux sur l'ouest du pays. Brouillards qui peuvent être givrants dans la vallée de la Saône, c'est en Bourgogne.
Un mot des températures ?
Encore des gelées ce matin dans l'est principalement, à moins 5 degrés à Nancy, moins 4 à Besançon, moins 3 à Mulhouse, à Lyon. Pour les autres, une moyenne un petit peu plus douce, à 7 degrés dans les terres, 8 à 13 degrés même près des côtes. Il en fait 11 à Bordeaux, à Brest, à Biarritz en ce moment, 13 à Perpignan. Et puis cet après midi, on gagne encore quelques degrés, 9 à 12 degrés, c'est la moyenne sur la moitié nord, avec 10 degrés à Paris, 11, 12 à 16 pour la moitié sud. Il en fera même 18 à Perpignan cet après-midi.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, ou devrais-je dire Hello the buddies. Debout les copains étant 5-7 rieurs, certes, intransigeants sur l'info, that's right, mais surtout, surtout, on top, comme on dit aux US, ouvert sur le monde. Comme nous l'a encore prouvé hier admirablement Eva Rock, qui dans son CV avait mis bilingue, mais elle avait oublié de préciser que c'était bilingue français-niçois.
Hein. Je vais vous parler d'un film de 12 minutes qui exige beaucoup de souffle. Il s'appelle One Brush Around the World.
One quoi ?
One Brush Around the World.
One Brush ?
Non, Brush.
One Breath ?
Oui, mais je l'avais bien dit.
Oui, shit all neuf. Allez Eva, retenez votre souffle, hold your breath. David Doucan arrive pour le journal.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici donc le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Après le drame, le recueillement, l'incendie criminel dans le 16e arrondissement de Paris, 10 personnes ont été tuées. Une messe s'est tenue en hommage aux victimes hier soir. La fusion n'aura pas lieu, sauf énorme surprise, la commission de Bruxelles va dire non aujourd'hui au rapprochement entre Siemens et Alstom. Quelles conséquences pour le groupe français et ses salariés ? La réponse dans ce journal. La loi anti-casseurs adoptée hier à l'Assemblée, mais 50 députés marcheurs se sont abstenus. C'est inédit. Est-ce le début d'une fronde ? Reportage au Palais Bourbon dans cette édition.
Europe 1.
C'est l'incendie le plus meurtrier à Paris depuis près de 14 ans. 10 personnes ont perdu la vie dans cet immeuble en feu du 16e arrondissement. On déplore aussi 32 blessés, dont 8 pompiers. C'est la piste criminelle qui est privilégiée. Une habitante de la résidence aux lourds antécédents psychiatriques est soupçonnée d'avoir mis le feu volontairement dans le cadre d'une dispute de voisinage. Cause criminelle qui ajoute sans doute à la douleur des proches des victimes. Une messe a été organisée hier soir dans l'église du quartier, l'église d'Auteuil. Reportage Pierre Herbulot.
Devant l'autel, 10 bougies ont brillé pendant toute la durée de la messe. 10 comme le nombre de victimes pour lesquelles Béatrice a prié pendant près d'une heure. Elle habite l'immeuble voisin de celui qui a brûlé.
Ce sont des cris et des silhouettes de personnes sur les toits que je n'oublierai jamais. On se sent tellement impuissant qu'on se dit qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est une manière de communier avec eux, avec les victimes, avec leurs familles. Oui, d'être en communion avec tous ces gens qui ont souffert.
Ils se sont indignés de la nuit.
Le père Olivier a lui rendu un hommage appuyé aux pompiers intervenus pendant la nuit.
Je crois qu'on imagine à peine le combat qu'ils ont mené puisque les circonstances des sauvetages étaient vraiment très difficiles. Ils ont vraiment sauvé un nombre impressionnant de personnes au risque de leur vie. Donc nous avons prié beaucoup pour les pompiers. J'ai beaucoup remercié les officiers et les jeunes qui étaient là. En plus, ils m'ont beaucoup impressionné sur leur façon d'être tout simplement.
Des prières pour les victimes, leurs familles, les sauveteurs, mais aussi pour la femme qui serait à l'origine du feu. Quelle était la détresse de son cœur ? S'est demandé le prêtre devant les fidèles.
Reportage, Pierre Herbulot pour Europe 1. Aux États-Unis, Donald Trump a prononcé son discours sur l'état de l'Union. Il a annoncé son ambition de faire disparaître le sida dans le pays d'ici 10 ans. Il a également redit sa volonté de construire un mur à la frontière mexicaine. Le président américain a évoqué des discussions, je cite, « constructives » avec les talibans en Afghanistan. Il a aussi annoncé qu'il rencontrerait à nouveau le dictateur nord-coréen Kim Jong-un à la fin du mois au Vietnam. Sauf énorme surprise, la Commission européenne va dire non à la fusion entre Alstom et Siemens. Le but était pourtant de créer un champion européen du ferroviaire capable de faire face aux mastodontes chinois. Mais pour Bruxelles, un tel rapprochement aurait trop cassé la concurrence. Alors question, cet échec est-il inquiétant pour le français Alstom ? Emmanuel Dutheil.
À court terme, Alstom n'a pas d'inquiétude à se faire. Son carnet de commandes est plein, il est même à un niveau record. Mais pour l'avenir, ce sera plus compliqué. Au moment de l'annonce de la fusion, Alstom le reconnaissait. En dehors de l'Europe, nous ne sommes pas assez compétitifs. Cette fusion est donc capitale. Tout était prêt. Ça devait s'appeler Siemens Alstom et le logo devait même être une déclinaison de celui d'Alstom. Cet échec, c'est donc un gros coup dur pour Alstom pour réussir à concurrencer les groupes chinois. À long terme, ça pose la question de la pérennité de ces usines en France avec la fusion. Le groupe s'était en effet engagé à ne rien fermer. À Bercy, on se veut malgré tout rassurant. On estime qu'il y aura peut-être d'autres opportunités de rapprochement dans les années à venir. On parle notamment des activités ferroviaires de Thalès. Mais bon, d'ici là, il va falloir vite écrire une nouvelle histoire parce que ce soit à Bercy ou chez Alstom, on expliquait surtout depuis un an et demi que ce mariage était la meilleure solution.
Emmanuel Dutheil, chef du service France d'Europe 1. Le 24 avril devient la journée de commémoration en France du génocide arménien. Le président de la République en a fait l'annonce hier soir. Emmanuel Macron s'exprimait lors du dîner annuel des organisations arméniennes de France. Le 24 avril 1915 à Constantinople, des intellectuels arméniens avaient été raflés et assassinés par l'Empire ottoman.
À suivre dans ce journal, y aurait-il un début de fronde à La République En Marche ? La loi anti-casseurs a été adoptée hier, mais 50 députés marcheurs se sont abstenus. A tout de suite.
Il est 6h35, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, la loi anti-casseurs a été adoptée hier soir par l'Assemblée nationale.
Oui, avec une assez large majorité, mais 50 députés marcheurs se sont abstenus parce qu'ils jugent que le texte porte atteinte aux libertés publiques. C'est inédit au sein du groupe majoritaire. Sous le quinquennat précédent, cela s'appelait une fronde. La hantise des responsables macroniens. Reportage au Palais Bourbon, Virginie Riva.
Pas de malaise, c'est le message officiel de Gilles Legendre, chef de groupe En Marche. Et pourtant, il y a bien un vrai ras-le-bol chez ces 50 députés qui n'ont pas voté. L'un de nous le confie, la politique du gouvernement penche trop à droite. Stop. En coulisses, les abstentionnistes ont donc réussi à se coordonner pour peser. Ils ne veulent pas de l'article 2 qu'ils jugent liberticide. Aurélien Taché fait partie de ce groupe.
Il y a un sujet de principe avec le fait de transférer au préfet la possibilité de restreindre les libertés individuelles des Français. Dans le texte actuel, c'est très encadré, mais on ouvre une brèche dans laquelle d'autres pourraient s'engouffrer si par malheur ils arrivaient au pouvoir.
Début de fronde, les marcheurs ne veulent surtout pas entendre parler de ce mot, ni même de courant. Ils parlent de sensibilité, mais pour le député républicain Philippe Gosselin, la majorité commence bien à se fissurer.
La majorité est au début d'un certain nombre de difficultés et tout dépend comment l'atterrissage en mars-avril se fera après ces débats entamés depuis quelques semaines par le président de la République.
Abstentionnistes, oui, mais pas opposants. Les 50 marcheurs espèrent bien modifier le texte lorsqu'il reviendra à l'Assemblée en deuxième lecture. Sinon, cette fois-ci, ils l'ont dit, ils voteront non.
Virginie Riva, du service politique d'Europe. Sachez par ailleurs que le Sénat s'est opposé cette nuit à la privatisation d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Il s'agit pourtant de l'un des aspects les plus spectaculaires de la loi Pacte portée par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Ce n'est cependant qu'un contretemps. Le dernier mot reviendra à l'Assemblée nationale qui avait donné son feu vert en première lecture. Vous souvenez-vous de la super prime à la conversion ? C'était l'une des premières réponses à la crise des Gilets jaunes. Une aide pouvant aller jusqu'à 4000 euros pour changer de voiture en fonction de plusieurs critères très précis. Un mois après sa mise en place, dressons un premier bilan et vous allez le voir, on note un effet positif sur les ventes. Aurélien Fleureau.
Après des débuts très timides, depuis quelques jours, les clients commencent à affluer. C'est en tout cas ce qu'a constaté Aramis Auto, spécialiste de la vente en ligne mais aussi en agence. 11% de ventes liées à la prime à la conversion en janvier, c'est en nette augmentation par rapport à 2018 et un acheteur sur trois a pu bénéficier des 4000 euros de prime. Pour Anthony Glotin, c'est c'était une surprise, mais des clients qui se trouvaient plutôt sur le marché de la vente entre particuliers franchissent désormais le pas.
Les bénéficiaires de la prime à 4000 euros sont vraiment des clients qu'on ne connaissait pas, qui sont venus nous voir et qui avaient vraiment attendu le mois de janvier pour pouvoir renouveler leur voiture en mettant leur ancien véhicule à la casse. Ça leur permet d'acheter des véhicules qui sont plus récents, plus sûrs, moins polluants et moins consommateurs de carburant. Aujourd'hui, 87% des bénéficiaires de la prime conversion, en ce qui nous concerne, sont non imposables.
Selon ce premier bilan chiffré d'Aramis Auto, c'est évidemment l'aspect économique qui prime, mais l'impact écologique existe aussi. 84% des véhicules récupérés sont des diesels, très souvent de plus de 15 ans. En revanche, là où ça coince, c'est parfois du côté des banques. Des foyers aux revenus modestes ont droit à la prime, mais ne peuvent pas acheter faute de pouvoir emprunter.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Qualification de Caen, de Nantes, Dijon et Orléans pour les quarts de finale de la Coupe de France de football. À suivre aujourd'hui, le PSG affronte à Lyon les joueurs de Villefranche-sur-Saône, club de 3e division. Et puis, mon cher Mathieu, l'Olympique de Marseille a gagné.
Droit au but, mais quand même.
A gagné hier 1-0 face à Bordeaux dans le cadre d'une journée en retard de Ligue 1.
Ouais, c'était un beau moment pour moi, effectivement. J'ai kiffé, comme disent les jeunes. Merci. C'était le journal de David Doucan. Alors les filles, vous en avez pensé quoi ?
Waouh !
Oui, c'est la réaction pondérée que David attendait. David qui, malgré le succès, reste visiblement toujours inquiet quant à ses performances, et ce, dans tous les domaines, comme il s'en ouvrait à Céline hier après leur petit rendez-vous en salle de repos.
C'était bon ou quoi ? Ouais. Non, Céline ?
C'était très bien, ouais, non, vraiment.
Mais oui, David, je suis sûr que c'était très bien. Vous êtes parfait dans tous les domaines. Cessez de douter, mon grand. Cessez de douter.
Vous n'avez honte de rien.
Non, de rien.
C'est incroyable.
On passe à la météo.
Comment peut-on encore vous laisser sévir ? C'est incroyable.
Je ne sais pas, David. Bon. Et vous, je vous retourne la question. Vous voulez que je dise les blagues que vous avez fait en tête ? Bon, alors voilà. Allez, sortez rapidement du studio. C'est mieux pour vous.
Allez, on va
Céline
parler
d'Acosta. Quel temps pour cette journée du 6 février ?
De la douceur qui persiste à l'extérieur et à l'intérieur de ce studio également. On vient de l'entendre.
Oh oui.
On gagnera encore quelques degrés cet après-midi puisqu'on aura jusqu'à 18 degrés à Perpignan. Il en fera 16 à Nîmes, 14 à Bordeaux, 11 à Brest, 10 à Paris et 9 à Lille. Côté ciel, c'est couvert sur l'ouest avec un temps agité pluvieux, surtout cet après-midi près de la Manche. Encore du soleil pour les Pyrénées, le flanc est, le sud-est et la Corse. Et puis attention également ce matin aux brouillards qui sont nombreux sur l'ouest du pays.
Merci Céline.
5h-7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures à la lisière de l'info, du rire et parfois même du surréalisme. Comme hier matin, quand Céline Dacosta, dont le chef du service psychiatrique de l'hôpital Belpo avait pourtant dit qu'elle avait fait des progrès, semblait victime d'une rechute. C'est la découverte de petites roulettes sous son siège qui ont déclenché la crise.
Hop, je reviens.
Et oui. À suivre, eux, ils sont psychiatriquement irréprochables, politique, économie, médias. Les trois fantastiques arrivent au programme, notamment ce matin, les coulisses de l'opération française au Tchad ce week-end.
Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Le recueillement après l'incendie criminel dans le 16e arrondissement de Paris qui a tué 10 personnes et fait de nombreux blessés. Une messe s'est tenue en hommage aux victimes hier soir à l'église d'Auteuil. Je vous rappelle qu'une habitante de l'immeuble aux lourds antécédents psychiatriques est soupçonnée d'avoir mis le feu volontairement. C'est une déconvenue pour Paris et Berlin, sauf énorme surprise, la commission va dire non à la fusion entre l'allemand Siemens et le français Alstom. Le projet visait à bâtir un géant européen du ferroviaire pour faire face à la concurrence mondiale, mais Bruxelles juge qu'il entre en contradiction avec les règles de la concurrence. Enfin, aux États-Unis, Donald Trump a prononcé son discours sur l'état de l'Union. Il a annoncé son ambition de faire disparaître le sida aux États-Unis d'ici 10 ans. Il a également redit sa volonté de construire un mur à la frontière mexicaine. Le président américain a évoqué des discussions, je cite, constructives avec les talibans en Afghanistan. Il a aussi annoncé qu'il rencontrerait à nouveau le dictateur nord-coréen Kim Jong-un à la fin du mois au Vietnam.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ce matin, pour cesser d'engraisser les studios hollywoodiens qui n'ont pas besoin de nous pour les droits d'auteur, j'aimerais, Eva, que vous lanciez artisanalement la séquence des Trois Fantastiques.
Vous constatez que je me suis améliorée en flûte de pan quand même. Hein,
oui, ah oui, bon. en net progrès, effectivement, Eva. Eva Roque pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique, Axel de Tarlet pour l'économie, trois experts formant une équipe unie au sein de laquelle les dissensions sont très rares. Disons qu'il en faut vraiment beaucoup pour énerver Axel de Tarlet. Et pourtant, hier...
Ça fait 40 téléphones vendus par seconde. C'est beaucoup ou pas ?
Dans le monde.
Dans quel pays ?
Dans le monde.
Mais dans quel pays dans le monde ?
Dans le monde.
Dans le
Dieu, écoutez-moi, je suis même le dauphin d'or, bon.
Oui, vous l'êtes, Axel. Et pourtant, la vie et les conducteurs radio sont injustes, puisqu'on commence par Mickaël Darmon. Ah. Le débat national et les questions intérieures focalisent la vie politique. Pourtant, Mickaël, il se passe des choses en dehors du grand débat. Et ce matin, vous nous racontez l'histoire secrète d'une intervention en urgence de l'armée française qui s'est déroulée au Tchad ce week-end.
À Paris, alors que le gouvernement se prépare à l'acte 12 des Gilets jaunes, une alerte des renseignements arrive dans la nuit de vendredi à samedi au sommet de l'État. Elle vient de Libye. Une cinquantaine de 4x4 a passé la frontière. Ils foncent dans le désert en direction de N'Djamena, la capitale du Tchad. Des rebelles tchadiens veulent renverser le président Idriss Déby. Personne n'est au courant de ce qui se trame, mais le dirigeant du Tchad demande l'aide en urgence de la France. Il faut savoir que le président donc Déby est un pivot du groupe appelé le G5 Sahel, hein, pointe dans la lutte contre les groupes terroristes dans la région. Des accords de défense existent entre les deux pays. Si Déby a renversé, tout l'équilibre géostratégique donc de la région également est parti. Le président Emmanuel Macron donne son feu vert. Des Mirage 2000 décollent d'une base située non loin, prennent en chasse donc les jeeps dans le désert pour un survol d'avertissement. Mais rien n'y fait. Les Mirage volent de plus en plus bas, presque au ras des véhicules. Les rebelles ignorent l'avertissement. Déby s'inquiète. Le coup de force est imminent. Il faut faire quelque chose. Dimanche 3 février, un autre feu vert de Paris. La patrouille des Mirage cloue au sol l'escouade des rebelles. Selon le gouvernement donc français, il s'agissait d'entraver la progression hostile et de disperser la colonne, avec en fait un enjeu politique, sauver le régime tchadien, ce qui a été fait durant ce week-end, de tous les dangers pour l'équilibre dans cette région.
Et cet épisode montre que la victoire militaire de la coalition contre Daesh n'a pas réglé le danger du terrorisme.
Et cette région devient même du Sud-Sahel l'épicentre de ce risque avec l'arrivée de combattants donc de l'État islamique démantelé qui se sont aussi réfugiés. Donc en Libye, la France surveille cette évolution comme le lait sur le feu, d'où l'extrême attention que portent les services de l'Élysée à une situation toujours délicate sur le dossier des djihadistes qui seront récupérés par la France et livrés à la justice.
Merci beaucoup Mickaël Darmon pour toutes ces informations. De la politique, nous passons à l'économie avec vous, mon dauphin d'or Axel de Tarlé. L'Allemagne veut se doter d'un fonds d'État pour protéger ses entreprises des appétits chinois. Berlin se rallie donc au patriotisme économique si cher à Arnaud Montebourg.
Voilà, il y a également des batailles économiques à côté des batailles géopolitiques qui se trament. Et les Allemands ont été traumatisés en 2016 parce qu'ils avaient une entreprise de robots dont ils étaient très fiers. Et du jour au lendemain, cette entreprise de robots, il y a eu une OPA chinoise et donc elle est devenue chinoise. Et donc depuis, eh bien, ils ont changé de doctrine. Ils se disent c'est plus possible parce que les Chinois, si vous voulez, ils ont détaillé leur plan. Ça s'appelle Made in China 2025, devenir leader dans toutes les technologies d'ici 2025. Et pour ça, les Chinois ont une recette très simple. Ils font leur supermarché, ils font leur course en bourse. Vous allez en bourse, vous lancez une OPA sur une entreprise qui réussit et hop, elle devient chinoise. Et donc les Allemands se disent mais c'est pas possible. Si les Allemands se disent si on laisse faire dans 10 ans, nos plus belles entreprises, nos Siemens, nos ThyssenKrupp deviendront chinoises. Et donc, eh bien, ils ont décidé de créer un fonds d'État. Et dès que les Chinois veulent le racheter, hop, ce fonds public préempterait, viendrait racheter avant les Chinois l'entreprise. Vous voyez, c'est quand même un changement de doctrine parce que pendant très longtemps, les Allemands étaient adeptes du laisser-faire, étaient des libéraux. Et bien là, ils deviennent adeptes du dirigisme, un peu exactement comme l'était Arnaud Montebourg.
Et nous aussi, Axel, on est menacés par ces appétits chinois.
Alors bien sûr, sauf que pour les Chinois, la France, c'est pas le pays des robots et de l'industrie.
Ah c'est, non, le pays... c'est le pays du vin.
Voilà, mais exactement, vous avez raison, c'est le pays du luxe, et du tourisme, et donc bah, ils s'intéressent à
ils
quoi.
Ils vont pas racheter le Mont-Saint-Michel quand même.
Mais non, mais ils ont racheté le Club Med, ils sont entrés au capital d'accord, ils ont racheté Baccarat.
Et non, on laisse faire, on n'a pas créé de fonds comme les Allemands.
Eh bah, ben, on a créé exactement, c'est parfait, on a créé une liste de secteurs à protéger, l'électronique, le spatial, l'intelligence artificielle, la médecine, la défense. Il n'y a pas le tourisme, et donc demain, s'il y a une OPA 100% sur accord, ce sera un choc. Accor, c'est notre champion mondial de l'hôtellerie, mais on sera bien démunis face à ces appétits chinois.
Merci Axel de Tarlé. Et Varoc, pour oublier que la Tour Eiffel sera bientôt chinoise,
oui.
Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir?
On continue à parler de luxe, on en parlait déjà à 6h20 avec notre invitée, la chef 2 étoiles Stéphanie Lequellec, gagnante de Top Chef en 2011. Et bien ce soir, c'est la nouvelle saison du concours culinaire qui entame sa 10e saison sur M6 à 21h. J'ai regardé le premier épisode et quel niveau! De toute évidence, la production de l'émission veut vraiment marquer les esprits pour cet anniversaire et ça marche avec la dose d'humour et d'émotion qui caractérise ce programme. Et au cours de la saison, la plupart des grands chefs étoilés français viendront d'ailleurs juger les 14 candidats. Alors des candidats qui adorent puiser l'inspiration dans les saveurs de l'enfance, bien évidemment. Et bien d'enfance, il en est question également sur France 4, toujours à 21h ce soir, avec la diffusion du film de Jean-Pierre Jeunet, L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet. C'est un film porté par l'imaginaire, par le pouvoir créatif de ce petit garçon de 10 ans, T.S. Spivet, un génie qui met au point une machine au mouvement perpétuel.
T.S. Spivet, votre invention a remporté notre prestigieux prix Bird. Waouh. Ils me prennent pour un adulte. Ce voyage me terrifie. Mais c'est décidé. Je pars demain pour Washington. Chère famille Spivet, je pars pour quelque temps travailler loin d'ici. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien.
Et voilà donc notre petit héros parti pour Washington tout seul. C'est un voyage initiatique qui est empli de poésie et d'espoir. Et une douce mélancolie qui se dégage de ce film. Après le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet poursuit son exploration, ses souvenirs d'enfance qui nous construisent. C'est absolument magique. Moi, j'avais adoré ce film au moment de sa sortie au cinéma. Et les critiques sont dithyrambiques partout dans tous vos magazines aujourd'hui. Vous verrez, c'est à voir sur France 4 à 21h.
Impeccable. Merci beaucoup Eva Rock pour ses conseils. Merci Axel de Tarlet, Mickaël Darmon. L'équipe des 3 Fantastiques sera de retour demain peu avant 7h moins le quart. Céline, quel est l'élément le plus fort que vous retenez de cette séquence ?
Moi, j'écoute pas.
Bien.
Europe 1. Il est 6h51, Mathieu Noël.
Ce sera bientôt l'heure des adieux pour Debout les copains, dont les membres, après avoir passé 2 heures à répéter aux gens qu'il fallait se lever, pourront eux aller roupiller peinard. Un savoureux paradoxe qui n'affectera pas Céline Dacosta, qui poursuivra durant la matinale de Nico Salegas son activité favorite, avancer et reculer sur sa nouvelle chaise à roulettes.
Je reviens. Oui. Oh, je m'en vais.
Oui, tu t'en vas. Oui,
reviens,
à tout de suite.
Reviens,
oui, le débrief de la matinale de Nico, ça suivra.
Il est 6h54, Mathieu Noël.
Debout les copains, touche à sa fin, c'est le moment du passage d'antenne, le moment où l'on prend conscience qu'Europe 1 est vraiment une grande famille. Autour de cette table, des gens qui travaillent ensemble depuis parfois près de 10 ans, comme Laurent Cabrol et notre spécialiste média préféré, hein Lolo.
Salut Eva.
Eva.
Oh putain.
Mais comment elle s'appelle déjà celle-ci ? Bref, le meilleur est à venir, le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Nikos qui, ça y est, a clairement passé la seconde. Les auditeurs, il est résolu à aller les chercher par la peau des fesses, et ce sur tous les continents, dans tous les pays, même les plus lointains. Hier par exemple, c'était le Nouvel An chinois, une occasion en or pour séduire un nouveau public, et le fils spirituel de Pierre Belmar, Nikos Belmariagas, était clairement l'homme de la situation.
Ouais, évidemment, on va en profiter aussi pour vous souhaiter une bonne année, à vous, auditeurs d'origine chinoise peut-être, auditeurs chinois, il y en a, ils nous écrivent parfois sur internet, Chinen Kua Le.
Oui, et même si après vérification, Chinen Kua Le signifierait « j'ai chopé une mycose », plus que bonne année, on salue ce geste d'ouverture. Un Nouvel An chinois qui a en tout cas offert aux humoristes de la station un terreau fertile pour développer les vannes les plus qualitatives. On pense notamment à l'inénarrable Laurent Cabrol qui n'a pas loupé le coche.
Tu sais qu'aujourd'hui c'est le jour de l'an chinois.
Bah oui, alors.
Et vous êtes du signe du cochon.
Ah bon ?
Et comme tout est bon dans le cochon.
Pour ça que je fais la météo dans tous les Groen France.
Oui, non, mais. Non, mais on a eu de la chance, hein, il aurait pu imiter le bruit du cochon. Oui, alors, plus sérieusement, je pose la question ce matin. Et ça, c'est une question sérieuse. Hein. Pourquoi Lolo est-il le meilleur dans son domaine ? Eh bien parce que contrairement à la plupart de ses confrères présentateurs de météo, qui débitent l'info comme des robots pressés, Lolo lui prend le temps de réfléchir à ce qu'il dit, voire même de s'auto-interrompre pour s'engueuler quand il n'est pas content de lui-même. Il est en cela l'inventeur de l'auto-débrief en direct.
Sur la Bretagne et le Cotentin, là, ce sont des crachins de mer, c'est pas joli comme formule ça, tiens. J'aurais dû dire autre chose, des pluies marines, allez, c'est plus joli.
Toujours est-il que les férus de littérature, les férus d'humour, les chinois, personne n'a été oublié et surtout pas notre nouvelle cible, les jeunes. Les nouvelles consignes du patron d'Europe 1 étaient très claires, aller chercher les jeunes en parlant leur langue. Message reçu 5 sur 5 par Cosny Gasliaga, le MC de la matinale, qui s'est adressé aux jeunes. Bon, des années 90, mais aux jeunes quand même.
Tiens, trop bas. Oh, on va képer une teuté à la SINP. Ah ouais, je me souviens, c'est ma génération. David Abiker, tu montes ? Ouais, c'est Cantelou, vas-y.
Hémorragie terrible pour Fun Radio, on l'imagine. Et dis donc, au fait, Cosny, on n'oublie pas les jeunes chinois.
Chinen Kua Le.
Oui, Chinen Kua Le à tous.
Chinois, bonne année.
Oui.
Bonne année, alors ne partez pas mon cher Mathieu Noël avec Eva Rock, sans oublier ce stylo vache.
Mon stylo vache européen,
corporé
jusqu'au bout.
Il est culte, il faut le prendre en photo, il faut le tweeter.
C'est magnifique. Bientôt le salon de l'agriculture, on va ressortir nos stylos vaches.
On en a peut-être des nouveaux.
Comme dit le dicton, au salon de l'agriculture, Mathieu Noël met son main dans la...
culture.
Ah, voilà. dans la culture.
Exact. Son main, j'ai dit, oulala, je suis fatigué. Bon réveil à tous, merci d'être avec nous.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.